100% d'Europe, Juliette Rangeval.
Le ciel essaie de nous avertir, des nuages toxiques se déplacent, tels des montgolfières, des ballons dirigeables, remplis, débordants, non pas d'hélium, mais d'un nombre incommensurable de pensées négatives.
Bonjour, face au changement climatique, les Européens peinent encore à concevoir leur mode de vie de manière plus sobre. Pourtant, la guerre en Ukraine et la crise de l'énergie qu'elle entraîne devraient rendre ce changement plus urgent. La prise de conscience avance. Cependant, en France, une pétition a été lancée cet été à Marseille pour demander l'interdiction des bateaux les plus polluants dans le port lors des pics de pollution. Quelques collectifs se battent pour lutter contre cette pollution dans le nord de Marseille, notamment là où accostent la plupart des paquebots. C'est un reportage de Yoram Melloul.
Dans ce combat contre la pollution, les habitants des quartiers nord de Marseille sont les premiers mobilisés car les bateaux stationnent avant tout dans cette partie de la ville. Marie-Pro Coletta les voit passer chaque jour, ou presque, depuis son jardin.
Nous ici, on est tout au bout de Marseille. On est à 23 km de l'autre bout de Marseille, là, sur le littoral, et à 12 km du centre-ville. Donc, on a le port, bien entendu, hein, qui est juste en face. Vous avez l'entrée des gros bateaux qui se passent juste devant vos yeux. Tous les bateaux, les gros bateaux, les énormes bateaux, les containers, les croisières et les bateaux qui viennent sur les formes de radoubes passent ici, sur ce canal. On sait qu'on se prend une bouffée de pollution dans les poumons. En plus, avec tous les événements qu'on a autour des évolutions du climat, il est clair qu'il y a une vraie sensibilisation de la population et que mourir jeune pour des gens qui partent en croisière une semaine, ça n'est peut-être plus vraiment acceptable.
Il y a les bateaux qui passent et puis il y a ceux qui restent. Guillaume Félisa habite près des quais où stationnent ces énormes navires.
Quand les bateaux sont à quai, il faut savoir qu'un navire de croisière qui a des aménagements très importants, il ne peut pas les déconnecter des sources d'énergie. Donc il a par exemple 20 restaurants comme le Wonder of Sea, bon, ils ont des chambres froides. Enfin, tout ça, les équipements techniques du navire doivent rester en fonctionnement. Donc, ils produisent de l'électricité et je vais même vous dire qu'ils produisent entre 10 et 15 mégawatt-heure. C'est une petite ville de 10 000 habitants qui est là et qui vit sous notre nez. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour produire cette électricité? Aujourd'hui, ils brûlent du fioul.
Il est inquiet pour sa santé, mais sans études, impossible de connaître l'impact réel de cette pollution sur les organismes. Alors, depuis plusieurs années, Guillaume Félisa héberge l'un des 10 capteurs citoyens installés par l'association Cap au Nord. Leur but, mesurer la qualité de l'air pour produire des données et alerter les autorités.
Nous, ce qu'on mesure avec nos capteurs citoyens, c'est ce qui n'est pas brûlé dans les combustions. Des dépôts qui se déposent partout et quand elles sont très fines, ces dépôts peuvent passer dans le sang et attaquer nos organes vitaux. Sur les 3 derniers jours qui se sont écoulés, nous avons 2 fois en moyenne la pollution atmosphérique tolérée par l'OMS. Des pics sur 12 heures qui peuvent être 4 fois plus de pollution. C'est ce que nous mesurons.
De plus en plus de Marseillais se mobilisent contre la pollution atmosphérique. Pour beaucoup, le déclic a eu lieu pendant le premier confinement en 2020, comme Rémi, présent à une manifestation organisée devant la mairie en juin dernier.
On a eu jusqu'à 16 bateaux en même temps dans la rade de Marseille qui s'est tourné à plein leur moteur et donc on a eu des pics de pollution dans les quartiers nord alors même qu'on était en confinement et donc dans un arrêt complet de l'activité par ailleurs.
Le rassemblement est organisé par le collectif Stop Croisière dont Rémi fait partie avec un mot d'ordre, respirez-tu, et 3 demandes.
1. L'arrêt de l'accueil des bateaux de croisière à Marseille au regard de l'ensemble des nuisances qu'elles apportent. La deuxième, c'est de réduire les nuisances liées au trafic maritime pour les autres navires, donc le fret et les ferries, ce qui suppose notamment une véritable et rapide électrification des quais qui est encore trop lente aujourd'hui, mais également l'électrification des chantiers navals et notamment de la Forme 10 qui est une plateforme de chantier naval qui est à Mouropiane et donc en frontière directe des quartiers de Saint-Henri et Saint-André, dont l'électrification n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui et qui représente une pollution absolument scandaleuse pour les populations environnantes. Et la troisième revendication, c'est celle d'instaurer les conditions d'un débat démocratique sur ce sujet-là, c'est-à-dire d'avoir des données fiables et communiquées au grand public, à la fois sur les conséquences sanitaires en termes de pollution de l'air notamment, mais aussi sur les retombées économiques dont on remet en cause les supposées évaluations qui sont faites aujourd'hui et pour qu'il puisse y avoir les conditions d'un vrai débat à ce sujet-là.
À force de mobilisation, les militants commencent à être entendus. Fin juillet, via une pétition, la mairie de Marseille a lancé l'idée d'interdire les escales aux bateaux les plus polluants lors des pics de pollution. Celle-ci a pour l'instant recueilli plus de 50 000 signatures.
En Turquie, à la frontière avec l'Arménie, Eder a été classée l'an dernier ville la plus polluée d'Europe. Eder, ce sont des grottes de sel, un caravansérail historique et un taux moyen de 66,2 microgrammes de particules fines par mètre cube d'air. Alors, la situation géographique de cette ville y est pour beaucoup, mais pas seulement. Les explications d'Anne Andlauer.
Non seulement cette ville domine le classement des agglomérations les plus polluées d'Europe, mais il le domine de très haut. La deuxième sur le podium, Krasnoïarsk en Russie, affiche un taux moyen de 49,8 microgrammes par mètre cube, là où l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, ne recommande pas plus de 5 microgrammes. Alors pourquoi respire-t-on si mal dans une ville si peu connue hors des frontières de la Turquie? Comme souvent, il n'y a pas une explication, mais un cocktail de facteurs qui font d'Eder, depuis des années, la ville la plus propice d'Europe aux maladies pulmonaires et cardiaques, entre autres effets nocifs de la pollution. D'abord et surtout, la topographie, la situation géographique d'Eder. La ville est située dans une cuvette encerclée de sommets. Dans cette cuvette, l'air circule peu ou mal, les monts alentours bloquent les vents qui pourraient assainir l'air ambiant. Les quelques 200 000 habitants d'Eder profitent certes d'un microclimat, des températures élevées pour la région propice à l'agriculture, mais cela veut aussi dire que l'air qu'ils respirent n'est pas suffisamment renouvelé. Les particules fines s'accumulent. Ensuite, les énergies fossiles. Étonnant à première vue puisque Eder n'est pas une ville industrielle et que sa population n'est pas particulièrement nombreuse. Même si l'usage du gaz naturel tend à se généraliser ces dernières années, de nombreux habitants d'Eder continuent à se chauffer au charbon, qui plus est parfois de mauvaise qualité. Les transports en commun sont également peu développés, ce qui rend les locaux dépendants de leurs voitures. Des experts mettent aussi en cause l'exode rural accéléré des dernières décennies avec, pour conséquence, une bétonisation rapide du centre-ville d'Eder. Les ONG de défense de l'environnement dénoncent l'inaction des autorités locales et nationales. Mais le cas d'Eder n'a rien d'une exception en Turquie. Düzce, au nord-ouest de l'Anatolie, est la cinquième ville la plus polluée d'Europe. Et le pays lui-même est dans le peloton de tête des pays les plus pollués du continent européen.
Fin 2021, Athènes envisageait publiquement de fermer l'ensemble de ses centrales, très polluantes. Mais début septembre, le discours des autorités grecques a changé. 7 centrales continueront à fonctionner plus longtemps que prévu. L'inflation et le conflit en Ukraine ont eu raison des bonnes intentions. Pourtant, la Grèce est très exposée au réchauffement climatique. D'après les prévisions, les températures pourraient augmenter de 5 degrés dans le pays à la fin du siècle. À Athènes, Joël Brunner.
Forme de charbon de basse qualité, le lignite est exploité en Grèce depuis maintenant 70 ans. Lorsque DEI, la compagnie nationale électricité grecque, naît en 1950, la priorité est à l'électrification du pays. À l'époque, le peu d'électricité produite provient surtout des centrales hydroélectriques. DEI change de cap et parie sur le lignite. En 15 ans, la production d'électricité est multipliée par plus de 6 et au total, 20 centrales sont construites en Grèce en l'espace de 40 ans. Résultat, au début des années 2000, les consommateurs grecs peuvent se vanter d'acheter l'électricité la moins chère d'Europe après celle des Estoniens. Oui, mais voilà, comme l'indique WWF, le coût caché, lui, est énorme. Dioxyde de soufre, oxyde nitrique, poussière, métaux lourds, CO2, la liste des polluants est longue, sans parler des très importantes quantités d'eau utilisées. L'extraction et la combustion du lignite ont des effets catastrophiques sur l'environnement et la santé publique, conclut l'ONG sans détour. Bruxelles acte alors la disgrâce du lignite, cette industrie qui représente le tiers des émissions de CO2 de la Grèce. À partir de 2013, les usines de production d'électricité européennes doivent en effet payer pour compenser leurs émissions. Plus du tout rentable, le lignite devient un gouffre pour la compagnie publique d'électricité grecque. Dans la revue Balkanologie, Chloé Vlassopoulos raconte que le parti conservateur, arrivé au pouvoir à l'été 2019, a trouvé le secteur de l'énergie au bord de l'effondrement et qu'il s'est retrouvé contraint de le réformer en urgence. Cette année-là, l'annonce est faite depuis la tribune des Nations Unies. Athènes compte cesser l'exploitation du lignite d'ici à 2028. 2025, affirment même les autorités grecques l'an dernier, avant de rétropédaler. Entre-temps, en effet, la Russie a envahi l'Ukraine.
En Espagne, on peut désormais voir sur la faune et la flore les conséquences du changement climatique et de l'agriculture intensive. Nous nous rendons dans le parc naturel de Doñana. Ce parc dans le sud de l'Andalousie a été classé réserve de la biosphère, patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Il y a des dunes, des marais, des falaises, des lagunes. C'est un paradis pour de nombreuses espèces animales et végétales. C'est là que se trouve le delta du Guadalquivir. Mais aujourd'hui, la plus grande lagune du parc est à sec et l'alerte est donnée pour sauver l'un des derniers espaces naturels du pays. C'est un reportage signé Diane Cambon.
Après 3 mois d'été caniculaire, le parc de Doñana est à l'agonie. Les marais qui entourent le petit village blanc du Rocío, une des portes d'entrée du parc, sont devenus de vastes prairies broutées jusqu'à la racine par les daims et les centaines de chevaux sauvages amaigris. José, qui tient un attelage de cheval pour promener les touristes devant l'église de la Vierge du Rocío, où il vit depuis toujours, ne cache pas son inquiétude pour l'avenir du parc.
On voit bien qu'il y a moins d'eau et cette année, cette lagune est à sec. Évidemment, tout cela a des conséquences sur les animaux. Il y a une diminution des espèces.
Son fils de 27 ans, qui travaille avec lui, se souvient d'une lagune remplie d'eau.
Quand j'écoute mes grands-parents, ils disent qu'il y avait beaucoup d'eau ici. Et moi, quand j'étais gamin, on partait se baigner quand il n'y avait pas autant d'interdits. On prenait un vieux frigo que l'on transformait en bateau et on partait 100 mètres par là. Mais aujourd'hui, ici, c'est sec depuis juin.
Ancien terrain de chasse des Grands d'Espagne, ce site naturel a été transformé en parc naturel en 1969 sous Franco. Sa richesse, ce sont ses lagunes qui abreuvent 60% des oiseaux migrateurs. Or, cette année, le nombre d'animaux a drastiquement baissé de 470 000 en 2021 à 87 500. Le danger qui menace les eaux du parc de Doñana n'est pas loin. De l'autre côté du grillage qui protège le site naturel, s'étend à perte de vue des cultures sous serre où de février à juillet poussent des fraises et des framboises exportées dans toute l'Europe. Cultivés à base d'engrais chimiques et de pesticides sur des tronçons de sable, ces fruits rouges sont en grande partie à l'origine de l'assèchement des marais et lagunes de Doñana, comme l'explique Juan Romero de l'association écologiste En Action.
Pero es imposible.
On ne peut pas continuer à maintenir autant de terres d'irrigation. Cela a provoqué une surexploitation des nappes phréatiques. Et si avant, l'aquifère était à 1 mètre de profondeur, il faut aujourd'hui creuser près de 15 à 20 mètres pour trouver de l'eau. Cela a provoqué l'assèchement des rivières qui irriguent les marais et les lagunes. Doñana est arrivée à un point de non-retour, car cela fait 30 ans que je travaille ici et je vois bien que cela va être très difficile de réaliser une reconversion agricole, de fermer les puits illégaux et de dévier les rivières pour que Doñana retrouve son eau. Mais la Confédération hydrologique ne le planifie même pas.
Le gouvernement espagnol a été condamné l'an dernier par la Cour européenne de justice pour non-respect des zones de conservation et vol systématique de l'eau du parc naturel. Et l'UNESCO a menacé de retirer le titre de patrimoine de l'humanité qu'elle lui avait attribué en 1994. Quelques 400 puits illégaux servant à arroser les fraises ont été fermés, mais il en resterait le double encore en fonction selon les écologistes. Enfin, la région d'Andalousie, au lieu de protéger le parc, envisage d'élargir les prélèvements d'eau au profit du commerce des fraises, lequel représente un négoce juteux pour toute la région de Huelva.
Un tournant dans la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine qui ordonne la première mobilisation des hommes russes depuis la Seconde Guerre mondiale, le président russe qui organise également des référendums pour annexer des pans entiers de l'Ukraine. Voilà deux décisions qui ont fait du bruit ces derniers jours sur les réseaux sociaux et c'est l'Europe du net de Clémence Pénard. Bonjour Clémence.
Bonjour.
D'un côté, cette mobilisation militaire minimisée par des influenceuses russes avec le hashtag « Don't panic », ne paniquez pas. Et de l'autre, Clémence, des annexions qui ont peut-être donné des idées aux Polonais et aux Tchèques.
Et oui, on le sait désormais, la guerre en Ukraine se joue aussi sur Internet. Depuis le début de l'invasion, les autorités russes mènent une vendetta contre les plateformes étrangères. Facebook et Instagram ont été bloqués dans le pays. Quant à Twitter, son accès est restreint. Seul Irréductible, l'équivalent russe de Facebook, j'ai nommé Vkontakte, mais qui depuis l'année dernière est passé sous contrôle de Gazprom et surtout de Sogaz, une entreprise détenue par un ami de longue date de Vladimir Poutine. Bonjour donc, la liberté d'expression pour les citoyens russes sur les réseaux. Quelques jours après la conscription de 300 000 hommes pour combattre en Ukraine, c'est donc sur Vkontakte que des jeunes femmes tentent d'apaiser les craintes de leurs concitoyens du sexe opposé. Pour ce faire, dans leur poste, elles rappellent que 300 000 mobilisés, ça ne représente finalement que 1% de la population russe encore mobilisable. Et pour appuyer ce raisonnement, ces influenceuses utilisent des comparaisons pour le moins douteuse. Ma préférée, Anna Belozerova, qui compare une frite seule avec une barquette pleine de frites. Pour une autre, ce sera un bonbon dans un gros sachet de bonbons ou encore un rouge à lèvres parmi beaucoup d'autres rouges à lèvres. L'homme russe est ainsi invité à vraiment réfléchir à sa condition. Finalement, il n'est qu'une petite frite dans un océan de frites. Pas la peine de paniquer, donc hashtag don't panic, pas la peine de fuir la mobilisation.
Alors, est-ce qu'on sait, Clémence, si ces femmes ont été directement mandatées par le Kremlin pour tenir ce type de discours ?
On sait peu de choses d'elles, mais oui, on peut douter de leur spontanéité. Ces influenceuses utilisent un argument selon lequel les hommes mobilisés n'auraient qu'une simple mission, celle de contrôler les territoires libérés et la ligne de front de 1000 km en Ukraine. C'est mot pour mot ce qu'a dit le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou. Poutine semble donc déployer des moyens détournés de jolies jeunes femmes, à la rhétorique implacable, pour convaincre sa population que cette guerre serait sans risque.
Et sur les réseaux, Clémence, il y a un autre mouvement qui fait réagir autour d'un hashtag pas très facile à prononcer, je me lance. Kaliningrad is Tchétchia. Comprenez, Kaliningrad, c'est la République tchèque.
Oui, tendance numéro 1 sur le Twitter tchèque. Vendredi dernier, Poutine a annexé 4 régions d'Ukraine à l'aide de prétendus référendums. Et cette annexion en inspire plus d'un. De nombreux internautes polonais et tchèques donc revendiqueraient aujourd'hui l'esclave russe de Kaliningrad. Alors, Kaliningrad, c'est un territoire russe, mais totalement isolé du pays, en sandwich entre la Pologne et la Lituanie. Les tweetos sont alors eux aussi créé un faux référendum. Leur argument, ce territoire a bel et bien jadis appartenu aux Tchèques puisque fondé en l'honneur d'un roi tchèque en 1255. Bref, si les Russes annexent des zones comme bon leur semble, alors pourquoi pas eux ? Évidemment, tout ceci est un canular. Il n'est absolument pas question d'envahir Kaliningrad. Mais l'idée, justement, c'est de montrer les limites de toute revendication historique sur n'importe quel territoire. La blague qui revient le plus souvent dans les tweets, la République tchèque, il faut le rappeler, n'a pas de littoral. Alors si avec la Pologne, il se partageait en deux Kaliningrad, problème résolu. Darina, qui vit près de Prague, a justement surfé sur cette plaisanterie. Elle écrit « J'ai déjà acheté beaucoup de vêtements de plage, rendez-vous là-bas » avec une photo d'elle à la mer. On l'écoute.
Je pensais à ces faux référendums en Ukraine et à la meilleure façon de montrer qu'ils sont complètement stupides et sont montés de toutes pièces. Et voilà, c'est ça la solution pour battre la propagande russe avec leurs propres armes. En République tchèque, nous aimons rire de tout et donc nous voulions nous moquer de la Russie.
Cette tendance sur Twitter montre que l'histoire peut facilement être manipulée. Mais dans ce cas, le canular pourrait peut-être se retourner contre ses créateurs. Et si le Kremlin récupérait cette simple blague à son avantage.
Une question posée par Clémence Pénard. Accent d'Europe à la réalisation. Françoise Grelot, podcast disponible sur RFI.fr et sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.